RFI Radio France Internationale, 10h à Damas, c'est Mamoudzou, 8h à Paris.
Andréane Mélard.
Et tout de suite le journal de Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Épices, tissus et gadgets électroniques en tout genre, un souk a priori normal.
Sauf que celui-ci se trouve à Damas et qu'il n'y avait pas foule sous le régime de Bachar al-Assad. Ah oui, mais le régime syrien est tombé et l'effervescence a repris, reportage à suivre. Alors que les incendies continuent à faire rage à Los Angeles, le président américain Joe Biden prononcera tout à l'heure son discours d'adieu à la politique étrangère. Donald Trump lui succédera dans une semaine à la Maison Blanche. À suivre notre dossier du jour, on s'intéresse ce matin à l'expansion de la branche somalienne du groupe État islamique. On sera aussi à Mayotte, toujours en alerte rouge après le passage de la tempête tropicale Dikeledi. Les habitants restent confinés. En Allemagne, où l'AFD a approuvé la création d'une nouvelle branche jeunesse du parti d'extrême droite. Et puice à Melbourne, à l'Open d'Australie, avec l'entrée en lice d'Andy Murray, mais pas sur les courses. Cette fois, il a pris sa retraite. Mais il est devenu entraîneur et pas n'importe lequel, celui d'un certain Novak Djokovic.
Il faut permettre le développement et la reconstruction de la Syrie, plaide l'Arabie Saoudite.
Et ça passe par une levée des sanctions internationales qui pèsent contre le pays, selon Riyad, où se tenaient hier deux réunions consacrées à Damas. L'une entre les chefs de la diplomatie des pays arabes, l'autre en présence de représentants occidentaux qui, eux, ne sont pas encore tous alignés sur l'idée d'un assouplissement des sanctions. Ils veulent d'abord des garanties de la part des nouvelles autorités syriennes, notamment sur la question de la protection des minorités. En attendant, depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, la vie reprend son souffle dans les rues de Damas. Les allées du souk al-Hamidiya, autrefois désertées, bourdonnent désormais. Reportage de Mohamed Erami.
Depuis le départ du régime Assad, de nombreux commerçants rapportent un afflux progressif de clients. Dans le quartier chic de Malki, Jafar Al-Ali, propriétaire d'un café, raconte que son établissement attire aujourd'hui 50% de la clientèle qu'il recevait avant la guerre.
Depuis 13 ans, nous n'avions pas ressenti un tel sentiment de sécurité et de tranquillité. On peut même voir de nombreux visiteurs venus d'Europe et du Liban, alors qu'ils avaient peur de venir en Syrie auparavant.
Les marchés nocturnes aussi ont retrouvé leur effervescence. À Sha'alen, un quartier résidentiel de la capitale, les boutiques de vêtements et de bijoux restent ouvertes tard dans la nuit. Les éclats de rire des passants se mêlent aux mélodies lointaines d'un oud joué par un musicien de rue. Une commerçante, Leïla, confie que la fin des taxes exorbitantes imposées par l'ancien régime lui permet désormais de mieux approvisionner son échange.
Regardez vous-même ce grand nombre de personnes dans la rue. Une telle scène n'était pas habituelle avant la chute du régime. Tout le monde restait chez soi. Et honnêtement, les agents de sécurité et l'administration sont formidables et courtois.
Mais cette renaissance reste fragile. L'économie du pays, encore plombée par des sanctions internationales partielles, peine à répondre à la demande croissante des consommateurs. Pourtant, à Damas, l'espoir est palpable. Les sons, les odeurs, les lumières, tout semble annoncer que la capitale syrienne est en train de renouer avec une vie normale. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Pas encore de vie normale à Gaza. Par contre, au moins 28 personnes tuées dans des frappes israéliennes au cours des dernières 24 heures, selon le bilan communiqué hier par le ministère de la Santé du Hamas. Le bureau du Premier ministre israélien fait, lui, malgré tout, état de progrès dans les négociations pour un accord sur la libération des otages encore détenus dans l'enclave. Benjamin Netanyahou en aurait parlé hier avec Joe Biden.
Le président américain qui entame sa dernière semaine à la Maison Blanche.
Après cela, il cédera sa place à Donald Trump, qu'il avait lui-même remplacé il y a 4 ans maintenant. Nouveau changement d'administration. Alors avant de partir, Joe Biden doit prononcer aujourd'hui son discours d'adieu de politique étrangère. On en parle avec vous, Loubna Anaki, en direct de New York. Que Loubna, le président sortant, devrait mettre notamment l'accent sur le rôle de leader des États-Unis sur la scène internationale.
Oui, et en croire ses collaborateurs, le président sortant va affirmer qu'il laisse les États-Unis plus forts sur la scène internationale que lorsqu'il a succédé à Donald Trump. Une affirmation qui n'est pas sans importance, hein, vu que le républicain revient au pouvoir dans une semaine. Ça ne va probablement pas lui plaire. On se souvient qu'en 2020, Joe Biden avait justement fait campagne en mettant en avant sa longue expérience en matière de politique étrangère. Lui qui fut sénateur et vice-président avant d'être élu à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, le président démocrate devrait évoquer l'OTAN, l'accord de Paris sur le climat ou encore l'alliance dans la zone Asie-Pacifique pour contrer l'influence de la Chine. Il devrait également parler du retrait chaotique d'Afghanistan, évoquer l'aide à Israël et surtout évoquer l'aide américaine à l'Ukraine dont l'avenir est incertain avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Joe Biden prononcera ce discours au département d'État avant une allocution plus générale des adieux à la nation prévue mercredi soir.
Merci Loumna Naki, correspondante de RFI à New York.
Mais avant ces adieux, un délicat dossier à gérer, les incendies de Los Angeles.
Ils continuent de se propager, les pompiers luttent toujours contre les flammes, mais les vents devraient à nouveau souffler fort à partir de demain dans la ville californienne. Le dernier bilan fait état de 24 morts. Les autorités préviennent que les habitants évacués ne pourront pas retourner dans leur foyer avant jeudi, à condition d'ailleurs qu'ils n'aient pas encore été détruits par les flammes. Des lotissements entiers ont été réduits en cendres. 300 soldats nord-coréens tués en Ukraine, 2700 autres blessés. Bilan du service de renseignement de Corée du Sud communiqué par un député du pays. Il affirme que ces soldats qui seraient envoyés sur le front pour épauler l'armée russe seraient encouragés à se suicider pour éviter d'être capturés. Le ministère autrichien des Affaires étrangères confirme l'enlèvement au Niger de l'une de ses ressortissantes, une femme de 73 ans installée à Agadez depuis de nombreuses années. L'identité de ses ravisseurs n'a pas été communiquée. Selon le média local Air Info, des hommes armés auraient fait irruption à son domicile avant de forcer l'Autrichienne à monter dans un véhicule.
RFI 10h06 à Mogadiscio, place à notre dossier du jour sur RFI.
L'histoire d'une expansion qui inquiète, celle de la branche somalienne du groupe État islamique. Elle n'était que marginale lors de sa création en 2015 dans les montagnes reculées du Puntland au nord de la Somalie. Mais 10 ans plus tard, cette branche de l'organisation djihadiste est désormais considérée comme une menace sérieuse par les Américains qui ont d'ailleurs tenté d'éliminer son principal leader l'an dernier. Bonjour Florence Maurice.
Bonjour.
Alors pourquoi parle-t-on ici de menaces ?
Eh bien, ces combattants ne contrôlent pas de vastes territoires, hein, contrairement à la branche sahélienne, par exemple, ou au groupe Al-Shabaab, qui a la main sur un quart de la Somalie. Mais cette branche somalienne est en train de devenir une plaque tournante logistique et financière pour le groupe État islamique. Selon l'ONU, il génère déjà plus de 4 millions de dollars par mois. Caleb Weiss est chercheur au sein de la Fondation Bridgeway.
L'État islamique en Somalie a des agents à Bosaso et dans quelques autres villes du Nord qui extorquent de l'argent aux opérateurs locaux, imposent des taxes illégales. Certains agissent aussi à Mogadiscio et l'argent qu'ils récoltent est envoyé dans le monde entier. C'est devenu sa principale fonction, générer des fonds et envoyer de l'argent ou du matériel aux autres branches de l'État islamique dans le monde.
Dans le monde, car cet argent ne sert pas seulement à ses filiales en Afrique de l'Est, mais bien au-delà. On a des preuves que des fonds ont transité depuis le bureau somalien du groupe État islamique jusqu'en Afghanistan pour financer des opérations ou le salaire de combattants.
Et autre source d'inquiétude, Florence, son recrutement de plus en plus international.
Oui, il y aurait environ 500 combattants actifs en Somalie et désormais plus de la moitié sont des étrangers venus du Maroc, du Yémen, du Kenya ou de la Tanzanie. Et cela risque de renforcer la puissance du groupe, explique Austin, docteur de l'Université de Nebraska.
Les combattants terroristes étrangers apportent des compétences nouvelles, leur expertise. Cela fait craindre que la Somalie s'implique dans des opérations de grande envergure, plus complexes. Les combattants étrangers ont tendance à avoir un engagement plus idéologique, être plus radicaux. Contrairement aux combattants locaux, leur agenda n'est pas motivé par des problématiques internes à la Somalie.
Alors, est-ce que ça veut dire, Florence, que cette branche somalienne pourrait mener ou diriger des opérations ailleurs qu'en Afrique ?
C'est la crainte, hein, c'est qu'en élargissant son recrutement, cette branche somalienne élargisse son champ d'action, notamment parce que l'un de ses dirigeants est un certain Abdul Kadir Moumin, un Somalien mais d'envergure internationale. Il a vécu au Royaume-Uni et en Suède. Certains analystes voient en lui le nouveau calife en remplacement de Feu al-Baghdadi, même s'il n'y a sur ce sujet ni preuve ni unanimité.
Merci Florence Maurice, c'était notre dossier du jour sur RFI.
3 morts dans le nord de Madagascar après le passage de la tempête tropicale Dikeledi.
Elle devrait se rapprocher à partir de mercredi des côtes, cette fois du sud de la grande île. Pour l'heure, Dikeledi se trouve toujours au large de Mayotte, archipel français déjà dévasté, on le sait, par le cyclone Chido le mois dernier. Là-bas, l'alerte rouge est toujours en vigueur, au moins jusqu'à ce soir. On vous rejoint à Mayotte, Justine Rodier. Vous vous trouvez en Petite Terre, l'une des îles de l'archipel, dans une école qui sert de centre d'hébergement. Racontez-nous un peu quelle est la situation sur place.
Alors ici, les gens disent que c'est très difficile. Ils sont dans l'école depuis samedi soir, donc ça commence à être très long. Les familles étaient arrivées avec de la nourriture et de l'eau pour maximum 24 heures, mais comme l'alerte rouge a été maintenue, on manque de tout. Donc ce matin, la municipalité a livré des petits pains et les associations ont fourni des petites bouteilles d'eau et des compotes à boire, mais c'est peu, donc priorité aux enfants. Et il y en a beaucoup ici, dont certains en bas âge. À part la nourriture, on raconte aussi des difficultés sanitaires, puisque certaines toilettes sont cassées, bouchées. Un monsieur me racontait aussi la promiscuité qui est dure à vivre avec plus de 300 personnes dans l'école hier soir. Ce matin, il y a un peu moins de monde quand même, parce que certains sont partis chercher à manger. Aussi parce qu'ici, sur Petite Terre, on est moins touché qu'au sud de Mayotte. Donc les gens estiment qu'il n'y a plus de risque et rentrent chez eux. Mais malgré ces conditions, beaucoup de gens préfèrent quand même rester ici et ne partiront pas avant la fin de l'alerte rouge. Tous parlent d'un grand traumatisme vécu pendant Chido.
Merci Justine Rodier en direct de Mayotte. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui que l'Assemblée nationale française entame l'examen en commission du projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte, avec notamment des mesures sociales. Rien sur la très délicate question migratoire, alors l'adoption devrait se faire assez facilement pour ce premier texte présenté par le gouvernement Bayrou.
Mais pour ceux qui suivront, rien n'est moins sûr.
Car le constat reste le même, Andréane. L'Assemblée est morcelée et le Premier ministre devrait s'en rendre compte dès demain avec sa déclaration de politique générale devant des députés remontés et qui agite toujours la menace d'une censure. Pour l'éviter, François Bayrou pourrait notamment faire des concessions sur la réforme des retraites pour tenter de séduire la gauche, au risque de se mettre à dos certains députés de droite. Bref, l'équation est toujours aussi délicate et la semaine s'annonce donc décisive. Charlotte Urien-Tobacca.
Avec un pays sans budget pour l'année 2025 et englué dans une crise des finances publiques, le Premier ministre devra, lors de son grand oral, résoudre une équation complexe, convaincre une partie de la gauche de lui laisser sa chance, sans perdre le soutien du socle commun, composé du bloc présidentiel et de la droite. Et dans la foulée de la déclaration de politique générale, la France insoumise va déposer une motion de censure destinée à faire tomber le gouvernement à peine nommé. Dans ce contexte, la réforme des retraites reste le sujet incontournable pour savoir si une partie de la gauche et l'extrême droite choisiront ou non la censure. Les socialistes, écologistes et communistes tentent de mettre la pression sur le gouvernement et s'attendent donc à un geste de la part du Premier ministre. Partisans d'une abrogation de la réforme, les trois groupes demandent à minima sa suspension. De son côté, la droite prévient, elle ne souhaite ni suspension ni abrogation de la réforme. D'ici mardi, les échanges se poursuivront. François Bayrou doit recevoir en fin de journée la présidente de l'Assemblée nationale Yael Braun-Pivet et le président du Sénat Gérard Larcher.
À Charlotte Urien-Tomaca.
En Allemagne, le congrès de l'AfD s'est achevé hier dans l'est du pays.
Et après avoir officiellement couronné Alice Weidel comme candidate à la chancellerie pour les élections législatives du 23 février prochain, le parti d'extrême droite a approuvé la création d'une nouvelle branche jeunesse. Une remplaçante à la Young Alternative, écorchée par des scandales, Anastasia Becchio.
Repartir sur de nouvelles bases et tenter d'effacer les débordements du passé. La nouvelle organisation, dont le nom n'a pas encore été arrêté, sera plus étroitement liée au parti, comme c'est le cas pour les Jusos, les jeunesses du Parti Social-Démocrate. Le texte adopté devant les 600 délégués de l'AfD stipule que les activités de la branche jeunesse ne doivent pas contredire l'ordre et les principes du parti. Propos racistes, xénophobes, liens avec la mouvance identitaire, la Young Alternative, considérée plus radicale que le parti d'Alice Weidel, est classée comme extrémiste de droite et nuisante à la démocratie par les services de renseignement allemands. L'une de ses responsables s'est notamment illustrée l'an dernier en postant une vidéo de jeunes entonnant un chant raciste et faisant le salut nazi. Si la création d'une nouvelle organisation a suscité des réticences de la part de certains cadres de la Young Alternative, la reprise en main par l'AfD est bien en marche. Désormais, tout membre du parti d'extrême droite âgé de 16 à 35 ans sera automatiquement inscrit au mouvement de jeunesse, ce qui facilitera aussi les procédures d'exclusion.
Anastasia Becchio.
Pas de problème majeur pour la numéro 2 mondiale de tennis.
La Polonaise Iga Świątek file au deuxième tour de l'Open d'Australie après sa victoire en 2-7 face à la Tchèque Siniakova. L'américaine Coco Gauff s'est-elle qualifiée en battant sa compatriote Sofia Kenin? Ça passe aussi chez les hommes. Pour le numéro 1 mondial, l'italien Yannick Sinner, tombeur du chilien Nicolas Jarry. C'est déjà fini par contre pour le grec Tsitsipas, surpris par l'américain Axel Mikkelsen.
Et à suivre dans les prochaines heures, l'entrée en lice de Novak Djokovic.
Un habitué, le Serbe a remporté le tournoi à 10 reprises. Il vise un 25e sacre en grand chelem. Et pour ça, il s'entoure désormais d'une autre légende de la raquette, le britannique Andy Murray, retraité depuis les Jeux Olympiques de Paris, est passé du côté entraîneur, un choix qui avait pris tout le monde de court. Correspondance à Melbourne d'Arthur Franc.
C'est une association royale que personne n'avait vu venir. Andy Murray non plus n'a pas cru son rival de toujours au téléphone. Retraité depuis les JO de Paris, l'Écossais n'a pas hésité, mais garde son humour.
On s'est affronté plusieurs fois ici. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à gagner. Cet homme en est le premier responsable. Je suis juste là pour saboter ses chances de remporter un titre en plus.
Sur le plan du jeu, l'idée paraît géniale. Murray a le même âge et connaît les forces et faiblesses de Djokovic par cœur depuis 25 ans. Sa récente expérience du circuit est aussi un formidable atout.
Je voulais avec moi un multiple vainqueur de Grand Chelem. La liste n'est pas très longue. Quelqu'un qui comprenne vraiment ce que c'est de gagner ce genre de trophée, ce que c'est d'affronter la pression, l'adversité, les attentes.
Avec Murray dans sa boxe, le Serbe va tenter de décrocher un 25e titre du Grand Chelem, mais aussi un 11e Open d'Australie. Il égalerait alors Margaret Court. Arthur Franc, Melbourne, RFI.
Et pour son premier tour, Novak Djokovic affronte le jeune américain Nishesh Basavaredi, 107e mondial et bénéficiaire d'une invitation, Andréane.
Et dans le prochain journal des sports, dans une demi-heure, Antoine Grenier viendra nous parler non pas de tennis, mais de football et les coupes africaines de clubs. Trois nouveaux qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Rendez-vous tout à l'heure à 8h42. Et tout de suite, la revue de presse internationale à 8h16, heure de Paris avec Frédéric Couteau. À la une, Frédéric, la descente aux enfers se poursuit dans la Cité des Anges.
Oui, Los Angeles est toujours la proie des flammes et les incendies ne sont pas prêts de s'arrêter. En cause, soupire le Los Angeles Times, les vents violents qui devraient souffler encore jusqu'à après-demain mercredi. Au moins 24 personnes sont mortes et plus de 12 000 bâtiments ont été endommagés ou détruits, pointe le quotidien. Après quelques progrès hier dans la lutte contre les incendies d'Eaton et de Palisades, les pompiers s'attendent à ce que le vent entrave donc à nouveau leurs efforts pour contenir cette tempête de feu. Le Los Angeles Times qui s'interroge comment ces incendies ont-ils démarré. Un feu de broussailles s'était déclaré le jour du Nouvel An près du site de l'incendie de Palisades. Des braises mal éteintes ont-elles pu être ravivées? Pour ce qui est de l'incendie d'Eaton, le feu semble avoir pris au pied d'un pylône électrique. Y a-t-il eu court-circuit? Un pyromane présumé a été mis en cause dans l'incendie de Kennett. Le feu a-t-il été mis volontairement? Les autorités ont jusqu'à présent fait preuve de circonspection et de prudence. Elles n'ont pas encore de réponse concrète, mais elles en auront, ont-elles dit, dès qu'elles auront terminé les enquêtes qui ne font que commencer.
En attendant, c'est la désolation pour des milliers de personnes qui ont tout perdu dans l'incendie de leur maison.
Le rêve californien est parti en fumée, soupire l'écrivaine Patty Davis dans le New York Times. D'après elle, c'est le changement climatique qui est responsable du drame et l'homme en est la cause. Il fut un temps où je pensais que cette terre californienne que j'aime tant serait éternelle, écrit-elle. Je ne pouvais pas imaginer une terre qui gémirait, se déchaînerait et sombrerait dans le chaos en raison de l'insouciance et de la cupidité de l'homme et de la croyance futile selon laquelle nous pourrions continuer à déverser des poisons dans l'atmosphère sans aucune répercussion. Nous avons déséquilibré une planète entière et nous en subissons aujourd'hui les conséquences, dénonce encore Patty Davis, des phénomènes météorologiques si violents que nous n'avons aucune idée de la manière de les combattre.
Autre analyse à lire dans le Wall Street Journal, analyse politique cette fois.
Comment la gauche a transformé la Californie en un paradis perdu, c'est le titre de l'un des éditoriaux du quotidien économique américain. Après les élections de novembre, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, avait annoncé son intention de protéger le Golden State de Donald Trump, mais qu'a-t-il fait pour la protection contre le feu? Réponse du Wall Street Journal, rien, bien au contraire. Et le journal de dénoncer les obsessions environnementales de Gavin Newsom, protection de végétaux et d'animaux qui ont entravé le débroussaillage et perturbé la gestion de l'eau, dénonciation également de la mauvaise gestion des crédits alloués aux pompiers, dénonciation aussi du laxisme de l'État californien face à la criminalité et face au problème des sans-abri, les sans-abri qui seraient à l'origine, pointe le Wall Street Journal, de plusieurs départs de feu ces dernières années et peut-être aussi à l'origine des incendies actuels. Et le journal de s'interroger, les incendies inciteront-ils messieurs Newsom et consorts à repenser leurs illusions? Oubliez cela, c'est La La Land.
Et puis cette question posée par le Washington Post, qui reconstruira Los Angeles?
Réponse là aussi très politique, eh bien les immigrés, notamment mexicains, qui constituent près de la moitié des travailleurs du bâtiment, alors que Trump s'apprête à prendre les rênes du pouvoir, promettant de mettre en œuvre des politiques d'immigration punitives pour s'attaquer aux sans-papiers, il est crucial de reconnaître qui construit véritablement véritablement l'Amérique. Comme lors de la pandémie de Covid-19, les États-Unis vont demander à leur main-d'œuvre immigrée d'accomplir des tâches essentielles. Le moins que le pays puisse faire en retour, estime le Washington Post, est de leur accorder la paix et la sécurité au lieu de les soumettre à la persécution et à la discrimination.
Enfin, autre question posée par Le Monde à Paris, comment Los Angeles pourra-t-elle organiser les Jeux Olympiques dans 3 ans?
Oui, les défis en matière d'infrastructure auxquels la ville est désormais confrontée sont immenses, souligne un analyste interrogé par le journal. Ce sera une course pour se préparer à l'organisation des Jeux et un cauchemar financier pour tout ce qui doit être construit ou reconstruit. Commentaire du Monde, au moment de faire le bilan de la catastrophe qui s'annonce déjà comme l'une des plus coûteuses de l'histoire de la Californie, certains se demanderont sans doute si l'organisation des Jeux de 2028 doit vraiment être la première des priorités.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale, et j'ajoute que à la une de notre site RFI.fr, ces incendies à Los Angeles et la solidarité qui se met en place, reportage de notre envoyé spécial dans le quartier de Pasadena dans le nord-est de la ville. Et ces incendies à Los Angeles et sa région vont être le premier dossier à gérer pour Donald Trump. Dans une semaine, le 20 janvier, ce sera la cérémonie de son investiture. Le milliardaire républicain, déjà président entre 2017 et 2021, revient à la Maison-Blanche plus soutenu que jamais. Il a obtenu 2,5 millions de voix de plus qu'il y a 4 ans, lorsqu'il a perdu contre Joe Biden. Un chiffre qui s'explique par les gains du républicain chez certains électorats traditionnellement plus démocrate, c'est le cas notamment chez les jeunes. Edward May est à Atlanta. Reportage.
Chez Skyler Atkins, des portraits de l'ancien président démocrate Kennedy sont affichés au mur, ainsi qu'une photo de Skyler avec Kamala Harris, prise avant 2020, l'époque où il votait encore démocrate. Aujourd'hui, désormais vice-président des jeunes républicains d'Atlanta, il constate un engouement jamais vu pour son parti.
On vient d'avoir notre fête de Noël et on n'a jamais eu autant de personnes, on n'a jamais eu autant de sponsors. Le soutien pour les jeunes républicains est tout simplement à un niveau historique.
Ce succès, estime Skyler, provient surtout du programme économique de Donald Trump.
Il voit que pendant le dernier mandat de Donald Trump, tous les indicateurs économiques étaient meilleurs quand il était président. Tout était moins cher et les taux d'intérêt étaient plus bas.
Sur une voie piétonne à Atlanta, Matt, 30 ans, se promène devant des restaurants et magasins. Il a voté pour le parti libertarien, mais se dit optimiste du mandat de Donald Trump.
La dernière fois, il s'était mal entouré. J'espère qu'il le sera mieux cette fois dans son administration, pour qu'il le mette sur la bonne voie.
Pour Matt, les interviews accordées par Donald Trump à des podcasts ont contribué à son succès.
Il s'est pris au jeu et s'est dit « Les médias traditionnels ne proposent pas de discussion de 3 heures ». Je pense que ça l'a vraiment aidé avec ses électeurs, de pouvoir s'installer et discuter pendant 3 heures. Ça a changé les choses. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais ça a permis de le rendre plus personnel.
Tyler, 31 ans, a voté démocrate et se dit inquiet, mais il a vu la popularité de Donald Trump augmenter dans son entourage.
Un de mes meilleurs amis a voté pour Donald Trump. Il vit en Californie. Il a toujours été un démocrate et a voté pour lui pour la première fois. Il en a juste marre des politiques en Californie. Une part importante de ma génération lit et regarde les infos plus que jamais. Et il voit les politiques des démocrates au pouvoir qu'il n'aime pas. Et ça les pousse vers Donald Trump. Je pense que la criminalité, la délinquance et l'immigration sont importants. L'impression dans les médias, c'est que les démocrates tolèrent le crime et la délinquance. Si c'est vrai ou pas, c'est à chacun de voir.
Mais les jeunes ont moins voté qu'aux dernières élections. Selon des estimations du centre de recherche Circle, la participation des personnes entre 18 et 29 ans était de 42%, 10 points de pourcentage de moins qu'en 2020. Edouard May, Atlanta, RFI.
Atlanta, où il est 2h23, 1h23 à Mexico. Le Mexique, où le gouvernement a lancé un programme de désarmement à Mexico sur le parvis de la célèbre basilique de Notre-Dame de la Guadalupe. Concrètement, pendant une semaine, les propriétaires pourront venir livrer anonymement leurs armes à feu contre de l'argent liquide. De leur côté, les autorités promettent de ne pas faire d'enquête et de détruire les armes. Bonjour Gwendolina Duval.
Bonjour.
Alors concrètement, ce programme est surtout une opération de communication, mais il représente la volonté du pays de réduire la présence des armes pour sa stratégie nationale de sécurité.
Oui, symboliquement, les militaires ont détruit une mitraillette et les enfants sont venus livrer des armes en plastique. Ce programme a déjà eu lieu à Mexico à l'époque où la présidente Claudia Sheinbaum était maire de la capitale, mais on ne sait pas vraiment l'efficacité, on n'a pas les chiffres de combien d'armes ont vraiment été récupérées. Toutefois, la capitale a montré des résultats positifs en termes de sécurité avec une réduction importante des crimes entre 2019 et 2024. Cette fois-ci, l'opération va s'étendre à tout le territoire. Le programme fait partie de la stratégie sécuritaire du gouvernement qui veut réduire la criminalité en agissant sur les causes. En 2024, au Mexique, il y a eu environ 30 000 homicides et 7 sur 10 sont provoqués par des armes à feu. Selon le gouvernement, la grande majorité de ces meurtres est liée aux activités des groupes criminels qui opèrent sur le territoire.
Et alors que la relation entre le Mexique et les États-Unis est un peu tendue, juste avant l'investiture de Donald Trump, on en parlait car il veut notamment déclarer les cartels mexicains groupes terroristes. Le sujet des armes est très présent au Mexique, Gwendolina, et le pays n'hésite pas à mettre en cause son voisin.
Absolument. Le Mexique reproche aux États-Unis de laisser faire le trafic d'armes. Le gouvernement estime qu'environ 200 000 armes à feu entrent illégalement au Mexique chaque année. Et de fait, un récent rapport de l'Agence américaine de l'alcool, du tabac et des armes à feu admet que les trois quarts des armes utilisées par les groupes criminels au Mexique sont américaines et proviennent des États comme la Californie, le Texas ou l'Arizona. L'ONG Mexico Unie contre la délinquance estime qu'il y a environ plus de 16 millions d'armes à feu en circulation aux mains des civils au Mexique, soit 13% habitants. Même si c'est beaucoup moins qu'aux États-Unis et même si c'est inférieur à la France, au Mexique, c'est très facile de se procurer une arme de manière illégale. En 2021, le Mexique a même porté plainte contre 11 fabricants d'armes aux États-Unis qui l'accusent de pratiques commerciales négligentes, dans le sens où ils sont tout à fait au courant que leurs produits sont utilisés pour alimenter la violence par les groupes criminels au Mexique.
Gwendolina Duval, correspondante de RFI à Mexico. C'est un seuil symbolique et il a été franchi. Outre les températures qui ont battu des records en 2024, l'année passée a aussi vu pour la première fois le réchauffement planétaire dépasser les 1,5 degré, et ce non seulement en 2024 mais aussi dans la moyenne de 2023 et 2024. C'est ce qu'a annoncé l'observatoire européen Copernicus. Stéphanie Schuller, 1,5 degré, c'est le fameux seuil de réchauffement fixé durant la COP21. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'accord de Paris sur le climat est désormais caduque?
Non, Andréane, l'accord de Paris n'est pas caduque. Rappelez-vous, certes, les pays signataires se sont engagés à faire tout leur possible pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré, mais ils se sont surtout mis d'accord pour contenir la hausse de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés. Donc, l'accord de Paris est toujours valable. Ensuite, revenons sur cette annonce de Copernicus en fin de semaine dernière. Oui, en 2024, nous avons dépassé les 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais pour savoir si cette température se consolide dans le temps, les climatologues ne se basent pas sur une, mais plutôt sur 20 années, comme l'explique Robert Vautard, co-président du groupe physique du climat au sein du GIEC.
Parce que les températures varient d'une année à l'autre d'un ou deux dixièmes de degré, il se pourrait tout à fait qu'en 2025, on redescende en dessous. Donc, ce qui est important, c'est le niveau de réchauffement moyen à une échelle climatique. Et l'échelle climatique, c'est une échelle d'au moins une décennie, voire deux décennies. Les derniers chiffres qu'on a sur le réchauffement moyen sur 20 ans, c'est un chiffre de 1,3 degré environ en 2023 et en 2024, ce qui veut dire que néanmoins, le réchauffement climatique actuel va extrêmement vite. C'est très, très inquiétant. Donc, lorsqu'on regarde l'état du monde et l'état des effets du changement climatique en 2024, on peut difficilement s'imaginer ce que sera un monde même dans 10 ans.
Alors ça veut dire qu'on risque de dépasser en effet les 1,5 degré, même si d'un point de vue scientifique, on n'y est pas encore.
Oui, c'est ça, Andréane. Or, depuis la signature de l'accord de Paris sur le climat, l'objectif des 1,5 degré a été au centre de tant d'attention et de couverture médiatique que ce chiffre est aujourd'hui présent dans la conscience collective de l'opinion publique mondiale. Le danger de dépasser ce seuil de réchauffement planétaire comporte donc le risque d'une démobilisation générale. Robert Vautard.
Qu'est-ce qu'on en conclut? Qu'il faut abandonner et laisser filer les températures jusqu'à 3, 4 degrés? Ou bien les limiter à 2 degrés ou à 1,7 degré, 1,8 degré? Je crois que la réponse est assez simple.
D'autant plus simple que nous avons les solutions, Andréane.
Stéphanie Schuller pour la question d'environnement sur RFI. Merci beaucoup. Dans une minute, le journal.
Ce lundi, sur RFI.
Que disent nos mots ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Comment le cerveau appréhende les mots ? Comment les bébés apprennent-ils le sens des mots ? Interrogation ouverte par le chercheur Xavier Alario dans un essai percutant. L'esprit des mots pour une nouvelle neuroscience du langage. Esprit, es-tu là, déjà, dans nos mots ?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU, sur RFI.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge APAfrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez jusqu'au 26 janvier sur APAfrique, APAfrique.rfi.fr.